9h dans le bureau de Par Jupiter.
Ce long week-end, ça m'a fait un bien fou.
Oh, ouais, bah oui,
je suis de nouveau prêt à glisser sur le toboggan du LOL.
Ah, bah pareil, pareil.
Alors, c'est quoi les sujets du jour, qu'on se marre un peu là?
Eh bah, notre invité a proposé deux sujets pile dans l'actu.
Ok, bah,
génial, vas-y. Ouais. La tuerie au Texas et les violences sexuelles.
Ouais. Hein
Non, mais c'est le principe de l'émission, hein, c'est la douche écossaise. Donc à nous de trouver l'eau chaude, c'est-à-dire. Les blagues.
Et puis des extraits de films pour illustrer les sujets.
Allez, on se retrouve dans une heure avec des propositions de sons. Essayez d'être drôle un peu. Hein.
Une heure plus tard.
Alors, on commence par la tuerie au Texas qui est une proposition.
C'est pas évident hein, avec des sujets pareils.
Non, mais pensez douche écossaise, pensez eau chaude.
Tuerie et douche écossaise.
Eau chaude et violences sexuelles.
Ah, mais attends, j'ai peut-être un truc pour illustrer la vente d'armes aux États-Unis.
Ah, bah vas-y, fais écouter, envoie le son, vas-y.
C'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle.
C'est décalé ça?
Décalé par rapport à quoi?
Un truc qui serait calé apparemment.
Mais la définition de décalé alors,
c'est quand l'eau est chaude.
C'est le sujet qui est trop froid, non?
Oui, ça. Là, c'est pas la douche écossaise, hein. Là, c'est l'hydrocution.
Ah, l'hydrocution. Ouais. Un son à trouver, non, mais je rêve.
Attends, mais si on trouve la blague, ça voudrait dire qu'on a inventé l'eau chaude.
Ah, bah ça se peut pas. Et donc, tu vois, ça c'est pas possible.
Pas possible.
Feignasse et fourbe.
Allez, moi je vais me faire un thé, tiens.
Moi aussi. Puis comme ça, je vais faire infuser le sujet.
France Inter et bienvenue au sein de la troupe des petits plaisantins. Voici la devise du jour, rien ne sert de courir, tu ne pourras pas rentrer dans le stade. Voici le sommaire amorcé par Juliette Arnaud.
Il y a une semaine, un homme de 18 ans en possession d'une arme automatique rentre dans une école primaire d'Uvalde au Texas. 21 morts, dont 19 enfants. On pense alors, il n'y a pas de mots. Et puis finalement, il y a des mots, il y a pourquoi, il y a aussi comment. Et là, on a un début de réponse. Le deuxième amendement, une spécificité parce que...
On est aux États-Unis, on peut tout se permettre, même descendre le président.
Damien Abad est toujours ministre et toujours candidat aux législatives, car la justice fait son travail et l'exemplarité peut attendre. Ça reste donc un boulet pour le gouvernement et pour sa permanence de campagne à Oyonnax dans l'Ain.
Bonjour. Merci. Par contre, je préférais que vous restiez dehors pour éviter tout malentendu à la Nafis à tout.
La générosité, est-ce que ça s'apprend? L'école de la philanthropie s'emploie à sensibiliser les enfants entre 9 et 11 ans dans les écoles pour leur apprendre à devenir philanthrope, une qualité qui se développe d'ordinaire hors les murs.
Être scout, c'est être généreux. Et la générosité, c'est savoir donner. Alors j'espère que vous serez tous d'accord pour mettre en commun votre argent de poche.
Communiste.
Et aujourd'hui à mes côtés, c'est Juliette Arnaud, donc bonjour.
Bonjour Charline, alors aujourd'hui ça n'est pas une équipe, c'est une concession en l'honneur de notre invité. Et voici Charline, nos co-épouses. Avec d'abord celle qui, malgré sa gentillesse immense et son éducation parfaite, risque de me jeter un objet contendant en travers de la tête. Alors certes ici, Rookie, vous êtes co-épouse, mais vous êtes la première d'entre elles. Bonjour Rookie Atawedra.
Bonjour Juliette.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Du débarquement des Anglais.
Je vois à peu près le... Ouais, je vois.
Ceux qui n'ont pas de billets, quoi.
Ah oui.
Ils avaient des billets. Celui qui, bien qu'ayant le cuir épais et l'habitude de recevoir invectives et autres noms d'oiseaux, mais qui là quand même reste muet, et c'est rudement agréable, co-épouse, ça on lui avait jamais fait.
Non, c'est pas mal.
Bonjour Guillaume Meurice.
Ça me plaît, bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Moi je vais vous parler du grand événement européen qui a attiré tous les regards vers la France ce week-end et où je me suis évidemment rendu.
La Workspace Expo, c'est le rendez-vous européen de l'équipement des bureaux.
Bah, bien évidemment, voilà la Ligue des champions hein, de l'Open Space, comme on dit.
Évidemment, c'est la dernière co-épouse, ce qui techniquement est faux, puisqu'elle était là quand Par Jupiter était portée sur les fronts baptismaux. Mais vu que c'est la dernière, ça veut dire que c'est la préférée. Et donc là, elle est contente. Bonjour Clara Dupont-Monod.
Oh, allons Juliette. Je suis la seule, manquerait plus qu'il y en ait d'autres. Nous allons parler du livre de notre invité.
Ah oui, car voici celle qui va remettre la mosquée au milieu du village. Vous êtes, je vous laisse tout le dire, vous êtes...
Jaylee Amadou Amal.
Oui. Woohoo.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue, Jaylee Amadou Amal. Vous avez été, je rappelle, finaliste du Goncourt et vous avez remporté le Goncourt des lycéens en 2020 pour votre roman Les Impatientes. Votre nouveau roman s'intitule Cœur du Sahel, paru aux éditions Emmanuel Colas. Vous nous emmenez à l'extrême nord du Cameroun. C'est cette bande de terre qui est enclavée entre le Tchad et le Nigeria, ce qui fait dire à Juliette, c'est le Finistère.
Sans la mer.
Le Finistère enclavé du Cameroun, c'est
ça ? Oui, parce que moi, je suis bonne en géographie.
Voilà. Entre Tchad et Nigeria, où sévisent Boko Haram et la sécheresse. Et Faïdé est une adolescente. Et en tant qu'adolescente villageoise, elle n'a pas d'autre voie que de partir à la ville pour devenir domestique dans ce qu'on appelle une concession, c'est-à-dire le foyer, mais un foyer élargi, parce que c'est une famille composée de l'homme, de ses trois épouses, des enfants. Et Faïdé va devoir affronter le mépris de classe, la maltraitance, le viol. À travers votre héroïne, Faïdé, est-ce que... Parce que c'est une héroïne de roman, donc... Il y a un destin singulier, bien sûr, mais à travers elle, c'est le destin commun à d'innombrables jeunes filles villageoises qui arrivent à la ville, que ce soit au Cameroun ou dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne.
Voilà, exactement. Et par ce roman, justement, je voulais quand même sortir des impatientes, mais en restant dans le Sahel. Avec les impatientes, c'est la vie et la condition des femmes dans le Sahel, dans ses concessions. Et avec le cœur du Sahel, eh bien là, on s'ouvre. Ça s'élargit vraiment au cœur du Sahel. On parle beaucoup du réchauffement climatique en Europe, mais on se rend pas compte qu'en Afrique, le réchauffement climatique, c'est pas juste voilà une phrase, un mot, c'est aussi l'insécurité alimentaire. Quand il ne pleut pas ou quand les saisons changent, eh bien, on ne sait plus comment faire pour des personnes qui vivent uniquement de l'agriculture et de l'élevage. Eh bien, cette jeune héroïne, Faïdé, elle aurait voulu poursuivre ses études, mais ses parents ne peuvent plus payer. Et d'ailleurs, comme dans toute la bande sahélienne, son village fait face à des incursions de plus en plus répétées de Boko Haram. Boko Haram qui sème la terreur, qui pille, qui brûle les villages, qui enlève les enfants, les femmes, etc. Et d'ailleurs, on voit que le père de l'héroïne lui-même a disparu après une razzia de Boko Haram. Eh bien, cette Faïdé, elle ne va pas en ville juste dans la recherche d'une subsistance meilleure. Elle y va vraiment pour la survie. C'est sa survie et celle de toute sa famille, de sa mère, de ses petits frères dépendant de son travail en ville. Mais quand elle arrive en ville, eh bien, elle doit faire face à la réalité. Je voulais parler dans ce roman de ces personnes, de ces esclaves finalement des temps modernes, de ces femmes figures invisibles dont on ne parle pas, dont on sait les services qu'elles rendent finalement en tant que domestiques, aides ménagères dans les concessions où elles ne gagnent que 5-10 euros par mois. Et finalement, personne ne s'occupe d'elles, personne ne sait pourquoi elles sont là, personne ne se pose de questions. J'ai moi-même grandi dans une maison où il y avait des domestiques, puisque c'est dans la même ville. Et évidemment, à un moment, je commençais à me poser des questions et à vouloir absolument connaître ce qui Faïdé, c'est qui ses copines et pourquoi elles sont là et c'est quoi leur rêve.
Mais justement, Faïdé, c'est l'adolescente que vous n'avez pas été. Faïdé, elle est de religion chrétienne, elle vient du village. Vous avez été élevée en ville, dans une famille où on vous a plutôt poussée à faire des études, avec un père qui estimait que ses filles, comme ses fils, avaient droit à faire des études. Pourquoi tout à coup on les regarde? Pourquoi on regarde ces adolescentes, l'adolescente qu'on n'a pas été et qui a vécu pas très loin de nous? Et comment on arrive à raconter son histoire?
Eh bien, je pense que ça, c'est le métier également de l'écrivain. En tant que miroir de sa société, on doit s'intéresser à tout ce qui fait cette société. J'ai parlé dans Les Impatientes de ces femmes finalement qui me ressemblent et dont j'ai vécu la vie. Des femmes peules confrontées au mariage précoce et forcé, mais des femmes finalement privilégiées qui vivent quand même dans un environnement où elles font face vraiment à la famine, aux difficultés, etc. Et puis il y a les autres. Dans Les Impatientes, on voit que ces domestiques existent. On voit qu'il y a même eu un viol de domestique. Et donc par là, avec Cœur du Sahel, je reviens pour donner une histoire, une figure à ces femmes qui sont vraiment invisibles. Et pour moi, c'était vraiment mon devoir en tant que femme, tout simplement, en tant que militante féministe, de défendre toutes les femmes et de parler de toutes les femmes, peu importe leur religion, leur classe sociale, etc. Et de montrer qu'on peut changer finalement sa condition, qu'on soit une femme qui vient d'une classe sociale assez privilégiée, où on subit finalement ce qu'on subit, ce n'est pas mieux. Ou alors qu'on soit voilà, de ces figures invisibles, et où on a une lutte pour la survie et une lutte également pour avoir sa place en tant que femme. Une femme qu'on peut violer à sa guise, qu'on peut frapper et qu'on peut renvoyer dans son village avec 5 euros pour toute seule compensation.
Pour s'en sortir, il y a une chose qui tient Faïdé, c'est sa capacité à rêver. Vous écrivez, le rêve de Faïdé ne va jamais plus loin que ce jour où, les bras chargés de tout ce qui apportera une étoile dans le regard de ceux qu'elle aime, elle rentrera au village. Et puis ensuite, Faïdé, elle a des rêves plus importants que cela. Elle a des rêves pour elle, des rêves d'études, des rêves d'amour, l'amour, tout ce qu'il y a de plus romantique.
Oui.
C'est quoi le plus important pour vous?
Eh bien, d'abord, au départ, je dis, dans la lutte pour la survie, le rêve n'a pas de place. Finalement, on se rend compte que même le fait de rêver, faille de ne rêver pas de, voilà, d'être médecin, d'être amoureuse, etc. Son rêve, c'était juste de pouvoir rentrer avec quelques cadeaux pour ses petits frères. Et puis ensuite, elle grandit, elle prend de l'assurance et surtout, elle se réinscrit à l'école. Et pour moi, l'éducation, c'est ça, le rêve. C'est le seul rêve qui nous est permis en tant que jeunes femmes dans toute l'Afrique subsaharienne qui puisse nous permettre de nous évader de notre condition.
Djaïli Amadou Amal publie « Cœur du Sahel » aux éditions Emmanuel Colas. Clara Dupont-Mono, vous aviez une petite question, vous inquiétez pas, vous la poserez tout à l'heure car nous avons plein de questions pour notre invité. Vous écoutez Par Jupiter.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer.
Bye.
Killer par Talking Heads sur France Inter, à l'écoute de Par Jupiter avec notre invitée, la romancière Jaïli Amadou Amal. Et pour l'entourer, Juliette ?
Ah bah, pas de Psycho Killer, Rukita Wedraogo, Clara Dupont-Mono. Oh, oui, d'accord, Clara, oui, vous avez raison. Il y a également Guillaume Meurice.
C'est vrai, avec qui nous allons faire un journal.
Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France.
Le journal de presque 17h17.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe.
Et on commence par les titres.
Mais dans ce journal, on parlera des violences lors de la finale de la Ligue des Champions.
Oui, et c'est la faute aux Arabes. Pardon, j'ai trop regardé les chaînes d'infos en continu. Excusez-moi.
Ah, d'accord. Et dans ce journal, on parlera aussi des violences lors du match Saint-Étienne-Auxerre.
Et là, c'est la faute aux Arabes, on peut le dire.
Mais attendez, avec quel rapport
Pardon, c'est un réflexe. Non, je sais pas ce qui m'arrive, Charline, aujourd'hui.
Et enfin, dans ce journal, on parlera du futur échec de Jean-Michel Blanquer.
Ah, bah, là, c'est la faute
aux Arabes encore.
Oui, et c'est feignasse de prof, on peut le dire.
Des profs arabes.
Oui, les profs arabes.
C'est à cause des profs arabes.
Islamisés.
Et voilà, exactement.
Faut que j'arrête les chaînes d'infos. On commence par la politique, Charline.
La finale de la Ligue des Champions au Stade de France a été gâchée par une immense pagaille autour du stade et la soirée a été émaillée de violences policières.
Non, c'est pas des violences policières, ça n'existe pas, les violences policières. C'est plutôt un maintien de l'ordre avec une réponse disproportionnée dans l'emploi des moyens répressifs.
Oui, c'est ce qu'on appelle une violence policière.
Oui, non, d'accord, vous avez raison. Mais oui, en plus, ça fait une phrase moins longue. Peut-être c'est mieux d'utiliser directement l'expression.
D'ailleurs, ce matin sur CNews, Pascal Praud a parlé des heurts au Stade de France dans l'heure des pros.
Karim Benzema est sur le terrain. C'est l'icône des quartiers.
Donc évidemment,
c'est l'icône des quartiers, Karim Benzema. Tu peux pas imaginer d'inviter 1000 gosses de la Seine-Saint-Denis et de faire une opération avec?
Mais... Qu'est-ce qui se passe, Cyrline? Pascal Praud devient woke.
Mais non.
Mais c'est pas possible. Mais je peux pas. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je peux pas continuer comme ça.
Reprenez-vous, Guillaume. Reprenez-vous.
Non, Cyrline, je suis désolé. J'en tire les conséquences en me retirant du monde de la blague.
Ah, voilà. C'est dommage parce que j'allais parler d'Éric Woerth.
Bon. Allez, je reste.
Allez, Éric Woerth ne veut pas que la réforme des retraites soit différée.
D'accord. Il a quel âge, Éric Woerth, déjà?
66 ans, pourquoi?
Voilà, c'est bon, j'ai plus de questions. Merci beaucoup, on peut enchaîner.
Législative, à présent, la campagne de Jean-Michel Blanquer semble mal embarquée. Selon un sondage, il serait au coude à coude avec le candidat du Rassemblement National.
Oh là là, Charline, vous sentez là comme moi, là?
Non.
Bon, que... ça sent la retraite à Ibiza plus vite que prévu, ça, j'ai l'impression. Une petite odeur, là.
Ouais. Allez, vamos à la Playa internationale. En visite en Ukraine, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré, je la cite, « Il ne faut pas que ça recommence ».
Oui, et elle aurait rajouté « Oh non, mais ça va bien là, les bagarres, tout ça. Non.
Santé maintenant, 16 cas de la variole du singe ont été identifiés en France, mais heureusement un vaccin est disponible pour les cas contacts à risque.
Ça c'est très très bien.
C'est tout?
Oui,
Guillaume, je sais pas, j'ai dit le mot vaccin, vous criez pas comme par hasard.
Oh pardon, désolé. Ah oui, j'ai vraiment coupé là pendant le pont, il faut que je me remette dedans. Excusez-moi, vous pouvez refaire?
Donc un vaccin est disponible.
Eh bah d'accord, comme par hasard, super. Le singe a inventé un vaccin et on va gommer ça. Bah bien sûr,
Je vous retrouve là,
Même moi ça me fait du bien.
Football, après la descente en Ligue 2 de l'AS Saint-Étienne, le terrain a été envahi par des supporters et des fumigènes ont été lancés sur les joueurs.
Si on devait balancer les trucs qui crament sur tous les trucs qui perdent, les joueurs de tennis français, ils jouent en combinaison anti-incendie.
Et puis l'orc qui est dans la Seine et qui devait être euthanasié est finalement décédé.
Ouais. Et se dirigeait vers où?
Vers le Havre.
Ouais. Non, mais je comprends la perspective d'aller au Havre. Moi, c'est un suicide,
je
pense.
Je pense aussi. Ouais. Et enfin, on termine avec une info santé. Une étude portant sur 1800 personnes a montré que les insomnies peuvent entraîner un déclin cognitif.
Non, c'est faux. Charline dort très mal et pourtant, elle est d'une vivacité d'esprit sans précédent.
Moi, Guillaume, qui gère le renouvellement des contrats, je vous l'ai déjà dit.
Je vois pas pourquoi vous dites ça, vraiment. Vous dormez pas assez, Charline. Hein, vous devriez peut-être plus dormir.
Merci Guillaume Meurice. Nous sommes en compagnie de la romancière Jaïli Amadou Amal. Et voici ce sujet que vous avez choisi, Jaïli.
Suite à la tuerie d'Uvalde où 19 enfants ont trouvé la mort, les Américains se déchirent une nouvelle fois. Alors que le carnage de Columbine a eu lieu il y a presque un quart de siècle, aucun enseignement ne semble en avoir découlé dans les faits. Pire, dans le cas d'Uvalde, la police s'est restée inactive, bien que prévenue, pendant 40 minutes. Alors, nous, en France, on est tranquille, puisque sans deuxième amendement, et puis surtout avec une réactivité totale des services de police.
Et on n'a pas le son, me dit-on. Et c'est même parce qu'on a...
C'est dommage parce que c'était Élie Kakou qui appelait la police et c'était tout à fait...
Et on a cherché toute
alors
la matinée.
Alors je vais vous le bruiter
en se disant comment décaler ce sujet. On a passé la journée sur comment décaler le sujet.
Et on ne va pas le décaler le sujet.
Et on ne va pas le décaler du tout. On va partir sur l'interview tout de suite.
Là.
Non, là c'est sérieux, on y va.
C'est vous qui avez choisi ce sujet qui est... sensiblement le sujet le plus désarmant possible, sans jeu de mots morbide, des enfants abattus dans un endroit où ils sont censés être en sécurité. Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'on discute de ça ensemble ?
Eh bien parce que je suis scandalisée. Et je suis très 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 énervée. Et il ne faut pas m'énerver. Non, sincèrement, ça me choque. En tant que mère, en tant que femme, en tant qu'être humain, tout simplement, ça me choque. Ça me choque que des enfants ne puissent plus aller à l'école et être en sécurité. Et ce sujet m'a interpellée parce que au Cameroun, qui est quand même très, très, très éloigné des États-Unis, eh bien, nous faisons face de plus en plus à l'insécurité dans les écoles également. C'est vrai que le sujet est assez éloigné, puisque là, on parle des armes en libre circulation. Mais de l'autre côté, quand on voit quand même que l'année dernière, un jeune homme poignarde un autre jeune homme qui est son professeur, c'est-à-dire un jeune homme de la classe de première ou terminale qui devait avoir dans les 17-18 ans, qui poignarde un autre qui devait avoir dans les 22-23 ans, jeune professeur sorti fraîchement de l'école et qui vient enseigner pour une histoire de téléphone portable et que ce jeune professeur perd la vie à l'école et que cet autre jeune se retrouve en prison, eh bien, il y a lieu à se poser des questions. Quand on voit qu'il y a juste quelques semaines, de la même manière, deux jeunes à l'école, au sein de l'établissement scolaire, se mettent à se battre et que l'un casse une bouteille, poignarde de l'autre et que l'autre perd de la vie, je ne sais pas, c'est devenu presque comme si c'était un jeu. C'est quand même la vie. On a l'impression qu'en tant que parent, on ne peut plus être tranquille en emmenant ses enfants à l'école. C'est quand même dramatique. Il faut qu'on puisse faire quelque chose. Donc, c'est pour cela que ce sujet m'a parlé tout de suite.
À quoi ça sert les mots dans ces cas-là ? Quand vous avez appris la tuerie d'Ovalde, quels ont été les mots que vous avez dit ou que vous avez pensé ? Est-ce que c'est d'abord des mots d'écrivaine ou est-ce que c'est des mots de mère ? Vous êtes mère, vous avez 5 enfants.
Moi, c'est des mots, je dirais, d'être humain. Et peut-être de personne tout court qui réfléchit. Encore ?
C'est le premier mot.
Ouais. Le premier mot, c'est encore. Une fois de plus, c'est pas la première fois. Et si ça continue, ça deviendra presque banal, en fait, qu'une personne entre dans une école et tue des enfants. Mais c'est dramatique.
Est-ce qu'il y a l'idée que... C'est quand même un presque enfant hein, qui a tué tous ses petits-enfants. Est-ce que, alors dans votre livre, vous racontez qu'il y a un mot précis pour désigner la caste des gens dont fait partie Faïdé, un mot employé par les Peuls, qui est le mot Kaado, qui désigne très clairement des gens qui sont d'une race ou d'une espèce inférieure. Est-ce que vous pensez qu'il y a une déshumanisation dans le regard de la personne qui tue comme ça, des êtres humains qu'il est en train de tuer, qu'il ne les voit plus comme des êtres humains ?
Bon, là, je pense que peut-être, est-ce qu'il faut accuser tout ce qui est virtuel ? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, nos enfants soient tellement devant les écrans, devant les jeux vidéo brutaux, et qu'on se rende même pas compte de ça, fait en sorte qu'ils se déshumanisent ? Est-ce qu'ils ont l'impression, en tuant, que c'est juste un jeu et qu'après ces personnes vont ressusciter ?
Il y a eu des tueries de masse aux États-Unis. Il n'y avait pas encore...
Bien avant les jeux vidéo.
Voilà, bien avant les jeux vidéo.
Pardon, à Colombagne, il y avait déjà beaucoup de jeux vidéo.
Oui, mais bien avant...
Il y avait Pac-Man,
non ? Non, les jeux vidéo, extrêmement violents.
Non, mais ce que je veux dire, c'est...
5 ans déjà.
Bien sûr, mais ce que, hélas, c'est que des tueries de masse encore antérieures, il y en a eu de toute façon,
oui.
Sans les jeux vidéo qui ont certainement aggravé ou quoi, mais hélas, il y a
c'est
un
des
côté...
questions en suspens. Oui,
on se pose la question et on se pose la question surtout, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça le plus important en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter ça ? Comment sensibiliser les jeunes ? Comment leur parler ? Et puis surtout les jeunes victimes. les parents, les frères, les sœurs, qu'est-ce qu'il faut leur dire dans toutes ces questions-là. Mmh. Mais dans tous les cas, en tant que parent, c'est quand même difficile d'envoyer son enfant à l'école. Nous, on a ressenti ça, en fait, quand il y a eu Boko Haram et ses attentats. Enfin, quand il y avait plus d'attentats dans la ville de Maroua, où il y avait mes enfants qui étaient scolarisés. Le premier réflexe de ma fille pour aller à l'école, c'était « j'ai peur ». J'ai peur d'être enlevée, j'ai peur qu'il y ait des attentats dans mon école, donc j'ai peur d'aller à l'école tout court. Si les enfants se mettent à avoir peur d'aller à l'école, eh bien, il n'y a plus rien.
Jaïli Hamidou Amal, avec nous jusqu'à 18h même, parce qu'il est 17h33, bien sûr, troublé. Oui, oui, buvez une petite gorgée d'eau, Rukyata Ouédraogo, parce que c'est à vous. Et bon, le monde va mal, hein, donc le monde va mal et une nouvelle démonstration avec Rukyata.
Oui. Alors, samedi 28 mai, c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle et en même temps la journée internationale d'action pour la santé des femmes. C'était ainsi, je devais aborder le sujet du débarquement des Anglais. Vous avez remarqué que le mot « règle » n'est pas embarrassant quand il désigne un instrument de mesure ou une contrainte juridique. Mais une métaphore s'impose en urgence quand il se rapporte au fonctionnement du corps de la femme. Vous connaissez l'expression le débarquement des Anglais.
Oui.
Alors, elle renvoie à l'arrivée des soldats anglais à Paris avec leur uniforme rouge après la bagarre de Waterloo en 1815 où Napoléon a pris la raclée de sa vie. Les Parisiens voyaient du rouge partout et avec la finesse qui fait leur charme, ont établi une correspondance poétique entre l'armée anglaise et les règles. Et si on y songe bien, ça laisse penser que les règles sont comparables à un ennemi, un envahisseur, pire, un Anglais. Alors que si elles sont envahissantes, c'est vrai, elles ne sont pas des ennemis. Au contraire, c'est la manifestation du bon fonctionnement du corps de la femme. Ceci dit, on oublie trop souvent que les règles sont aussi un marqueur social et culturel. Bref, ça ne se passe pas partout pareil. Tenez, en Espagne, on accorde un congé payé aux femmes ayant des règles douloureuses afin qu'elles ne soient pas obligées de venir travailler ces jours-là. C'est formidable. La France, elle attend quoi? Non, je suis sûre que si les hommes avaient des testicules douloureuses, ne serait-ce qu'une demi-journée par mois, ils se seraient déjà octroyé une semaine de congé mensuel depuis la nuit des temps. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'étais en Espagne, je ne serais pas là. Mais bon, on est en France, je suis là et de bonne humeur. Dans certaines régions d'Afrique, traditionnellement, les femmes ont les règles, qui ont les règles sont éloignées de la communauté. On les juge impures et on les loge dans des cabanes à règles. Elles ne peuvent pas cuisiner, papoter avec les gens, participer à la vie du village ou même aller chercher de l'eau au puits. En Inde, encore, c'est encore autre chose. L'industrie du sucre embauche tous les ans des millions d'ouvriers agricoles, principalement des intouchables. Écoutez-moi bien. Les recruteurs poussent les femmes à se faire retirer l'utérus. Quel rapport entre l'utérus et la canne à sucre, me direz-vous? Aucun. En revanche, il y en a un entre le sucre et l'esclavagisme. N'oublions pas que l'esclavagisme occidental qui va ravager l'Afrique est expérimenté par les Portugais à São Tomé au XIVe siècle, justement pour l'exploitation sucrière. Donc oui, vous avez bien entendu, un vulgaire recruteur s'autorise à pousser les femmes à se faire retirer l'utérus pour la simple raison qu'elles produisent moins pendant les règles douloureuses ou les grossesses. Ces jeunes femmes seront opérées par des toubibs escrocs confondants hypocrites, Hippocrate. Conséquence, ménopause à 20 ans ou 30 ans, vieillissement prématuré, cancer et suite horrible d'actes médicaux bâclés nécessitant des soins qu'elles ne pourront pas se payer. Et cerisier sur le gâteau, elles n'auront pas de repos post-opératoire. Elles devront s'endetter auprès de leur bourreau pour payer leurs mutilations et les jours passés à la clinique ne leur seront pas payés. Quant aux autorités, bien sûr, elles s'en foutent. Il ne s'agit que de femmes après tout. Et des intouchables en plus. Résultat, 36% des femmes ont subi une hystérectomie dans cette région, alors que la moyenne nationale, voire à l'échelle mondiale, est de 3%. Bref, j'invite toutes les petites filles à naître prochainement à bien choisir leur destination.
Elle nous écoute, ça tombe très très bien. Merci Rukyata Ouédraogo. Merci beaucoup. À partager bien sûr sur tous vos réseaux.
Chante solitaire sur France Inter. Notre invité, Djaili Amadou Amal, publie le roman Cœur du Sahel chez Emmanuel Colas. Clara Dupont-Monod va nous en parler dans un instant. Djaili qui est venue spécialement du Cameroun pour Par Jupiter et quelques autres médias secondaires. On va vous réentendre dans un instant, juste après Guillaume Meurice.
Oui, bah, sans surprise, hein, je vais vous parler de l'événement qui a fait polémique, hein, qui fait que toute l'Europe a les yeux tournés vers nous, notamment pour toutes les questions liées à l'organisation de la gestion des foules, hein, on en a beaucoup parlé. Évidemment, c'est le workshop Paris, le salon annuel leader en Europe, dédié à l'aménagement des espaces de travail. On a tous vu les images, hein, on a tous vu les hordes de hooligans fans d'Open Space qui se sont rués aux abords du parc des expositions de la Porte de Versailles. La police a eu du mal à contenir les visiteurs, il y a eu beaucoup d'agitation, de bagarres, notamment entre les pro-télétravail et les addicts du présidentiel radicalisé. C'était quand même impressionnant à voir. On a vu des scènes de guérilla urbaine, des sièges ergonomiques lancés comme ça contre les grilles. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des PowerPoint et autres canons à slide. On a même eu l'intervention de la force spéciale Happiness Manager qui a tenté de lancer un grand quiz suivi d'un karaoké géant pour apaiser les foules. Mais malheureusement, on le sait aujourd'hui, rien n'y a fait. Alors bien évidemment, je me suis rendu sur place. Azap, ah, bien sûr. Azap, j'ai pris tous les risques pour vous, pour le service public, pour la France. J'ai réussi à entrer à l'intérieur du salon.
C'est très calme.
C'est un peu calme là pour l'instant.
C'est très calme.
Il y a eu des gens qui sont rentrés avec des faux billets.
Je sais pas, peut-être. On les cherche les entrées d'ailleurs.
Oui, alors c'était calme. C'est vrai qu'à l'intérieur c'était calme, il n'y avait pas grand monde. C'était difficile d'accès, faut le rappeler. Le préfet de police de Paris n'avait pas encore donné l'ordre de charger. Vous voyez qui c'est, le préfet de police? Oui, vous voyez qui c'est? Didier Lallement, vous voyez qui c'est? C'est l'esprit de Vladimir Poutine dans le corps d'une championne régionale de GRS, pour résumer. Voilà. Bon, à l'intérieur, c'était quand même très calme.
C'est calme, mais c'est bien, c'est cosy, c'est ambiance bureau.
Mais est-ce qu'il y a une tension quand même entre les coworkers et les open spacers?
Le problème, c'est qu'ils ne se croisent plus depuis le Covid. Il y a ceux du lundi qui travaillent que le mardi, il y a ceux du mardi qui travaillent que le mercredi. Personne ne se croise.
Mais finalement, ça apaise les tensions, alors, si personne ne se croit.
Sûrement.
Oui, alors c'est un système de gestion des tensions qu'on a déjà, nous, expérimenté dans l'émission. Par exemple, il a été convenu qu'Alex ne soit pas là le lundi et le jeudi, sauf quand il n'est pas là non plus les autres jours, parce qu'il a un truc à faire. Du coup, parfois, il vient quand même parce qu'il est plus libre les jours où il est libre que les jours où il est... Bon, ça apaise les tensions, sauf celles de ceux qui font les plannings, mais qui sont en régie, là, derrière la vitre anti-émeute, donc on est tranquille. Pour les apaiser, j'ai trouvé des solutions. Il y a un petit golf, par exemple, dans les bureaux pour qu'ils se détendent.
Nous sommes ce qu'on appelle Design and Build. On est spécialisé dans l'aménagement de bureaux.
Et alors le golf?
Pourquoi le golf? Parce qu'on est maintenant, vous savez, comme on dit, bien au travail comme à la maison. Et donc il nous arrive maintenant d'aménager, faire vraiment des petits greens de golf pour les sociétés. Voilà,
dans les salles de pause.
Dans les salles de pause, le midi ou après ou en after work.
Voilà. Là, il n'y a plus de tension. Pourquoi on n'a pas ça, nous, à Radio France?
Ça, c'est sûr, on n'a pas ça.
Ben, on n'a pas, parce qu'on est dirigé par des putains de gauchistes, pas vrai, Clara? Ben, bien sûr, qui méprisent le sport, qui ne savent pas gérer les tensions internes. D'où les grèves à répétition. Si vous filiez un petit practice, hein, comme ça, en merguez à la CGT, ben voilà, ça irait beaucoup mieux ou alors encore mieux.
On a eu des demandes aussi où des gens voulaient, alors c'est très végétal, du relief, vraiment des espèces de petits monts, des petites collines.
Dans les bureaux.
Dans les bureaux, vous voyez, des choses où les gens peuvent pique-niquer. Des balançoires.
Des balançoires dans les open space.
Oui, par exemple, bien sûr.
Ben voilà, mais c'est ça qu'on veut. La société est violente, le monde du travail est violent. Mais si on mettait des balançoires dans les open space, il n'y aurait plus besoin de prud'hommes. On jouerait les plans sociaux au Shifumi. C'est ça qu'on veut, les augmentations à la marelle, voilà. Les solutions, elles sont là. Elles sont aussi à ne pas s'emmerder avec le boulot chiant et à le sous-traiter.
Nous, on propose du facility management. C'est l'externalisation et le pilotage des services généraux. Et nous, ce qu'on propose, de piloter ces prestations et de s'appuyer notamment sur des objets connectés pour récupérer les informations. Et contrairement à la majorité de nos confrères, nous, on propose principalement de co-traiter.
Vous êtes pilote de co-traitance.
On est pilote de nos partenaires co-traitants, exactement.
Voilà, on sous-traite, on co-traite, on délègue le pilotage de la co-traitance. Tout simplement, ce qui fait que le personnel de ménage, par exemple, il fait plus partie de la boîte et on peut le benchmarker en mode easy fast pour l'emploi. Voilà. Et ça apaise les tensions, mais on apaise comment les tensions, les conflits également, grâce à par exemple des cadres remplis de lichen, de mousse, voilà.
C'est ça, tout à fait, nous on va apporter du coup les pouvoirs de la mousse dans nos espaces.
Le pouvoir de la mousse.
C'est ça, tout à fait, power of mousse.
Le power of mousse, bien évidemment, elles sont là, les solutions pour un monde plus fraternel, voilà, elles sont devant nous, elles sont à portée de main.
Et bah, du coup, oui, bah, notre mousse, elle va apaiser les collaborateurs avec son design biophilique.
Et ça apaise les collaborateurs, ça?
C'est ça, oui. Bah, de voir un peu de verre, c'est toujours plus sympa que de voir des murs tout blancs. Nous, on en a plein, je suis très apaisé au travail en tout cas.
Vous avez l'air apaisé.
Ah oui, toujours.
Et ça, c'est le pouvoir de la mousse.
C'est tout à fait le pouvoir de la mousse, là, on en a plein autour de nous, je suis très heureux.
Voilà comment ce grand événement, chaotique au départ, je vous le rappelle, a retrouvé son calme. Voilà comment le monde de l'entreprise peut être plus doux avec des balançoires, de la co-traitance et de la mousse. Pas avec des meilleurs salaires ni des droits sociaux. Voilà, c'était Guillaume Meurice en direct du chaos, qu'est-ce s'appelle Orio, le monde du travail.
Oh là là. Merci Guillaume Meurice. J'allais dire, si vous devez rentrer au Cameroun et résumer la chronique de Guillaume, eh ben bonne chance. Et on embrasse Alex Vizorek, tiens, qui présente les Molières ce soir, retransmis sur France 3. Nous serons derrière l'écran, bien sûr, et on l'embrasse très fort. Alors, Jaïli Amadou Amal, cet autre thème, la campagne du candidat Damien Abad est légèrement contrariée à Oyonnax dans l'Ain. Contrarié, c'est le terme utilisé par le JDD ce week-end. C'est contrariant.
Ah oui,
ben c'est contrariant.
Hein,
voilà,
ça,
petite
là.
Pensée pour ceux qui tractent pour lui sur les marchés. Parce que ça doit être très contrariant aussi. Le ministre accusé de viol par deux femmes est toujours au gouvernement. D'ailleurs, le parquet n'a pas ouvert d'enquête préliminaire, faute d'éléments qui permettent d'identifier la victime. Donc voilà. Et puis chaque jour amène son lot de confidences à ce propos quand même chez LR. Hein, si vous voulez, c'est marche comme ça.
Je suis un peu surpris de vous voir ici. Je pensais que vous aviez arrêté la politique à cause de.
À cause de. Le pétrole irakien, j'ai été blanchi. Ah. Les marchés truqués, si on appelle. Le scandale Grip Malion, tous les témoins se sont suicidés.
Ah bon?
Quoi? Mes costumes, sur mesure? Mes vacances chez mon ami marchand d'armes? Non mais tu penses à quelle affaire, petit?
Non, aucune. Mais je pensais que vous passeriez la main.
Jamais. Je suis là pour encore 20 ans, minimum.
Laurent Gamelon et Jérémy Denisti dans Neuilly, sa mère, film de Gabriel Julien Ferrière et Jamel Ben Salah. Alors, l'affaire Damien Abad, vous l'avez reçue jusqu'au Cameroun, on en parle jusqu'au Cameroun, jusqu'à Douala.
On en parle, bien sûr, on en parle, comme partout d'ailleurs, mais on en parle, évidemment, nous on a notre regard aussi d'étrangers. On peut faire des commentaires, mais moi, si ce sujet m'a interpellée, c'est tout simplement le fait que partout, finalement, partout, qu'on soit en France, en Afrique, partout, les femmes ont tellement de difficultés à prouver encore une fois qu'elles ont été violées. Aujourd'hui, chez nous, au Cameroun, quand une femme va porter plainte pour viol, on commence par lui rire au nez, dans quel monde tu es, où tu vis. Et puis ensuite viennent les questions embarrassantes de victimes. Elles se retrouvent à la place de l'accusé. Ça s'est passé où? Tu étais habillée comment? C'était à quelle heure? qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là? Est-ce que tu es sûr que tu ne l'as pas quelque part à guichet? C'est peut-être de ta faute, peut-être que tu l'as bien cherché, etc. Donc, du coup, beaucoup de femmes hésitent à porter plainte, hésitent à même à en parler. Même les jeunes filles, finalement, qui se font abuser dans les lycées, quelquefois par leurs professeurs, n'en parlent pas parce que ça leur retombe très vite dessus. Et nous avons eu quelques cas dans ce genre-là avec des journalistes très connus, très importants au Cameroun, qui ont non seulement abusé d'une jeune fille de 19 ans, mais en plus se sont permis de la filmer et de tout balancer sur le net. Mais finalement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. On a eu ce cas de la jeune fille qui a été, et elle a accusé quelqu'un de très important et qui finalement a subi tellement de violences verbales, tellement de harcèlement qu'elle a dû se suicider. Et donc c'est dans ce sens où je ne me permettrai pas, évidemment, de juger ce qui s'est passé avec cet homme politique, mais de quand même mettre le doigt sur ce problème-là que rencontrent les femmes partout où elles sont, peu importe où elles vivent finalement. Et c'est dommage de se dire que dans un pays comme la France, des femmes peinent encore à se faire entendre en ce qui concerne ces sujets qui restent finalement des sujets tout aussi sensibles. Et nous, de notre regard d'Africain, eh bien, on se disait qu'au moins, ici, ça se passerait autrement.
Mmh. Et oui. Et là, d'ailleurs, lorsque vous publiez un roman, vous l'utilisez comme support aussi pour vos actions de terrain avec l'association Femmes du Sahel. Et ce roman, parlons-en, Djaili Amadou Amal, Cœur du Sahel, avec Clara Dupont-Mono.
Eh bien oui, vous êtes notre actualité première, hein, Djaili Amadou Amal, donc avec Cœur du Sahel. Alors cette fois, vous adoptez un seul point de vue, et non plus trois, comme vous aviez fait dans Les Impatientes, votre précédent livre. Et ce point de vue, je le rappelle, c'est celui de Faïdé, qui a 15 ans, qui a quitté son village camerounais, menacé par les islamistes, pour devenir domestique en ville, au sein d'une famille polygame. Or, dans votre roman, il y a un personnage en arrière-plan, secondaire, comme on dit, que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Bintou. Bintou, c'est une des copines de Faïdé, elle est domestique aussi et elle est très lucide. Une des premières choses qu'elle dit à Faïdé, je cite, « Tu ne peux pas être amie avec ceux qui t'emploient, tu n'es ni de leur ethnie, ni de leur religion. Alors un conseil, si tu veux te préserver, profite simplement de ce qu'ils peuvent t'apporter. Mais ne crois jamais qu'ils vont t'aimer. C'est d'autant plus vrai avec leurs hommes. » Or, la dernière qui va suivre ce conseil, c'est toujours comme ça, c'est Bintou elle-même. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle rencontre Sally, un beau gars d'une famille urbaine. Il est fortuné et musulman, alors que Bintou, elle vient d'une famille rurale. Elle est pauvre et chrétienne, c'est-à-dire exactement à l'opposé du spectre. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Bintou ? Eh bien, elle ment. Elle s'invente des origines prestige, elle chaparde des belles tenues à sa patronne, elle apprend par cœur les prières musulmanes pour faire croire qu'elle en est une. Résultat, Sally la couvre de cadeaux, mais le souci, c'est qu'il la demande en mariage au bout de 2 ans et surtout qu'elle se retrouve enceinte. Donc ça fait quand même 2 gros problèmes, alors même que Bintou, elle avait initialement donné de bons conseils à Faïdé. Quand même. Et puis un jour, fatalement, Sally vient prendre le thé dans la maison où travaille Bintou et découvre que c'est la domestique, Bintou, qui lui sert le thé. Humiliation totale. Mine de rien, ce que vous mettez en scène, c'est quand même une société ultra rigide qui est complètement traversée par des racismes, qu'ils soient de classe, d'ethnie ou de religion. Ça, on découvre ça en lisant votre livre. Et d'ailleurs, Sally, qui est ivre de rage d'avoir été dupée, traite Bintou et sa famille, je cite, de vermine de saleté, même pas islamisée. Notamment, bon, ce à quoi Bintou, qui a quand même du répondant, lui balance, mon père et ma mère sont des gens simples de la montagne, mais ils ont été sincères l'un envers l'autre. Ils ont été unis par l'amour, ce que tes parents musulmans et peuls ne connaîtront jamais. Ton père est trop occupé à épouser toutes les femmes musulmanes et oisives qui passent sous ses yeux. Bon, moyennant quoi, Sally lui met une énorme baffe. Il lui décolle la tête. Mais ce qui est tragique, c'est que Bintou, c'est celle qui dit non, mais pas de la bonne manière. Ça en fait le personnage, je trouve, le plus déchirant de votre roman. Elle a cru que pour refuser son destin, le mensonge serait une arme. Ça ne l'est pas. C'est la moins naïve du groupe, hein. Et pourtant, c'est celle qui s'y prend le plus mal, parce qu'au final, elle se retrouve humiliée, démasquée, giflée et enceinte.
Donc pour quelqu'un qui avait le bon mode d'emploi dès le départ, il y a une petite erreur de parcours. Et d'ailleurs, désespérée pour elle, ses copines la soutiennent. Bintou leur dit « Ne vous inquiétez pas pour moi » et elle décide de se suicider, de mourir comme on supprime, je cite, « une vermine, une saleté ». Donc à travers Bintou, on lit le chemin tragique d'une révolte viciée. En fait, on lit une erreur de stratégie. Bintou, c'est l'anti-Faïdé, qui, elle, a en quelque sorte réussi son refus. Bintou, elle incarne toutes celles qui n'ont pas su manœuvrer. Pour le dire autrement, c'est un personnage secondaire de premier plan. Je vous redonne les références. « Cœur du Sahel » de Djaïli Amadou Amal est paru chez Emmanuel Collat.
Merci Clara Dupont-Monod, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Hommage à Bintou.
Mais oui, abordons ce dernier
milliers
thème.
De Bintou.
À ces milliers de Bintou.
Oui, exactement. Alors on peut aborder ce dernier thème si vous voulez. En France, le nombre de donateurs à des associations est en baisse. Alors comment stimuler la générosité? L'école de la philanthropie s'y emploie en allant sensibiliser les enfants entre 9 et 11 ans dans les classes, notamment à travers des fictions, livres, films ou des grandes figures historiques de la générosité comme Alfred Nobel, l'abbé Pierre ou Nagui. Je suis pas sûre. Mais pour être généreux, il faut avoir un petit peu d'empathie.
Tu ramènes quoi, toi?
Alors, cette année, on a prévu des biscottes, des endives crues et de la mauvaise piquette en cubi.
Mais tu vas pas te faire des copains, Catherine?
Ah, mais c'est le but.
Mais pourquoi tu fais la fête des voisins, alors?
Mais parce que je ne veux pas incarner la voisine sympa sur qui on peut compter. Je n'ai pas envie qu'on sonne chez moi le dimanche pour que je dépanne pour un paquet de farine. Ou que si je vais à Ikea, on me dit « Tiens, tu me ramèneras des draous ?» Ok, j'ai pas envie.
C'est Catherine et Liliane, Alex Lutz, Bruno Sanchez, programme de Canal+. C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France, cette école de la philanthropie qui va dans les classes et qui fait classe toute une année pour sensibiliser à la générosité les enfants entre 9 et 11 ans. On a trouvé ce sujet assez curieux. Je voulais vous demander, est-ce que la générosité, ça s'apprend? Et est-ce que vous pensez que la notion de générosité est différente si on vit à Paris et si on vit à Douala, à Yaoundé, à Maroua?
Je pense que c'est assez différent parce qu'en Afrique, la notion de l'individu, en réalité, n'existe pas. L'individualisme n'est pas une valeur, au contraire, c'est très, très mal perçu. Donc, l'enfant... Évidemment, ça vient aussi avec toutes ces terres. L'enfant n'est pas que l'enfant de ses parents. L'enfant est l'enfant de toute la communauté. Et c'est toute la communauté, finalement, qui l'élève. De la même manière, dans notre région, pendant très, très longtemps, on n'a pas besoin d'être invité. Il suffit juste d'entrer dans n'importe quelle maison et de décider de passer la nuit ou de passer un an. Eh bien, dans notre coutume, il est totalement interdit de poser des questions à un visiteur. On ne lui demande pas pourquoi tu es là, on ne lui demande pas quand tu rentres. On lui prépare tout simplement son lit. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui le dit, un étranger, même s'il vient avec son lit et qu'il l'installe dans votre maison, il le pliera un jour, alors il ne faut surtout pas lui poser des questions. Évidemment, ça n'existe plus.
Oui, ça aurait été un bon argument pour Jawad. Jawad aurait dû utiliser cet argument.
Mais quoi qu'il en soit, on essaie quand même le plus possible d'apprendre aux enfants encore à partager. Mm-hmm. Ça crée quelques problèmes, bien entendu, à la cour de la récréation, parce que vous préparez un sandwich, peut-être avec des omelettes à votre enfant, il rentre à la maison tranquille et vous dit « Oh, tu sais, maman, j'ai mangé du pain au chocolat.
» Jaïli, voici un questionnaire de par Jupy Proust pour vous.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de l'idylle secrète et interdite, 10 tout en haut étant Roméo et Juliette, 0 étant William et Kate de Windsor et Buckingham, à combien situez-vous l'histoire secrète et interdite de Faïdé et Boucard?
Ah, ça c'est une question difficile.
Non, eh il
oui,
faut donner
je sais.
Une note.
Une note? Bon. Je ne vais pas m'y risquer, je vais mettre 5. Comme ça, je suis...
Très bien. Dans l'incendie d'un musée, vous pouvez sauver toute l'œuvre de Samuel Eto'o, le footballeur, ou un petit chat qui pleure. Vous sauvez quoi?
Le petit chat.
Merci beaucoup. Il faut 7 heures de vol environ pour faire Paris-Yaoundé. Avec quelle féministe passeriez-vous volontiers ces 7 heures? Chimamanda Ngozi Adichie, ou Simone de Beauvoir, ou Alexandria Ocasio-Cortez?
Simone de Beauvoir, parce que j'aurais pas l'occasion de la revoir.
Chez vous, on dit le cœur n'est pas un genou qui se plie. Chez nous, on dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est moi ou la vôtre d'expression elle est plus facile?
Je pense que la nôtre est plus romantique.
Également. De quel plaisir culturel honteux n'avez-vous pas honte ? Les films sirupeux à la mode Bollywood, les films sirupeux à la mode Hollywood ou une chronique de Guillaume Meurice ?
Sincèrement ?
Oui.
Hollywood, mais ne le dites à personne.
Personne n'écoute.
Aucun des 6 milliards, personne n'est au courant. Vous citez un proverbe malien qui dit que le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est pas la ligne droite, mais le rêve. On est d'accord que les maths, c'était pas votre meilleure matière à l'école?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi? Pourquoi infligez-vous ça à ceux qui ne veulent pas savoir?
Jaïli, Amadou, Amal, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Cœur du Sahel, c'est votre roman paru chez Emmanuel Colas. Bon séjour en France.
Merci de m'avoir invité. J'adore votre émission et cette radio, évidemment.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Votre parole est précieuse. Merci à toutes et à tous, les amis. Je vous dis à demain, nous recevrons Clovis Cornillac pour un film ayant pour thème la gentillesse.
Et gentil, et sensible, et tendre.
Rassure-moi, on parle bien d'un homme, là.